Pourquoi avons-nous besoin de ce récit? Pourquoi en aurions-nous besoin particulièrement ces temps-ci? Voici une des questions que je me suis posée. Et voici aujourd'hui une réponse que je vous livre. Que je vous livre en forme d'une sortie. Et d'une sortie d'une meute. N'importe quelle meute, la meute de ceux et celles qui disent, de ceux qui savent, qui parlent, la meute de ceux qui se protègent, qui se mentent et qui mentent. La réponse que je vous livre aujourd'hui en forme d'une tentative de sortie de cette meute pour aller éprouver un peu de vérité sur soi-même, sur une personne en face qui est devenue singulière. Au commencement, des hommes traînent une femme. Les voix, les commentaires, les prédicateurs, tout le monde disent qu'ils sont mus, qu'ils sont traînés, eux aussi, par la volonté d'en découdre avec Jésus, pour le piéger. Pour le piéger devant, dit le texte, tout le peuple, en faisant apparaître pour lui une impasse dans l'interprétation de la loi. Les commentaires autour de ce texte disent beaucoup de choses. Mais si on ne se focalise que sur ce litige, on oublie quelqu'un, on oublie cette femme, cette personne qui est une femme, cette personne humaine qui est une femme. On oublie comme s'il ne s'agissait que d'un débat entre hommes, dont la femme ne serait que prétexte. Et oui, de fait, elle est là, en tant que telle, et elle est, paradoxalement, bien qu'ayant donné le titre de ce récit, l'oubliée des commentaires. Elle n'est en fait qu'une fonction, narrative, une femme à lapider, un prétexte, pour, on va dire, coincer Jésus entre deux feux, vous l'avez compris, la popularité et la bonne interprétation de la loi. Mais cette femme est évidemment aussi, et c'est autrement révélateur, une occasion pour les commentateurs de montrer combien Jésus est fulgurant, comment il a été trop fort pour contrer ses adversaires, comment c'est extraordinaire de dessiner ou d'écrire ou de je ne sais pas quoi sur le sable. Ce moment sur le sable est un abîme dans lequel plongent tous les commentaires. Je n'ai pas envie de tomber dans ces pièges et ni dans le piège central car je ne veux pas transformer cette femme en fonction. En tant que commentateur, je pouvais le faire exactement de la même façon que procèdent les personnages de ce récit qui veulent démontrer quelque chose au moyen d'une femme devant tout ce peuple, dont je faisais partie, mais dont je me suis extrait, peuple auquel Jésus était en train de s'adresser avant qu'ils arrivent, eux et cette femme fonctionnalisée. J'aperçois donc la femme, pour me rappeler que, même s'il s'agit d'une femme d'un récit, donc une femme de papier. Elle n'est pas un simple prétexte qu'une simple fonction. Le récit, vous le savez, la sauve, la ressuscite. Alors, dans mon commentaire, pour ce faire, elle doit d'abord devenir une personne, car on ne peut pas ressusciter ou sauver une fonction. Et cette personne, c'est une femme, et cette femme est poussée au mépris de la procédure, d'ailleurs, mais qu'importe, par les hommes. Je dis qu'importe le défaut de procédure qu'on peut percevoir dans ce texte, parce que les commentateurs qui oublient la femme aiment parler d'une procédure qui n'est pas respectée. Comme si c'était un véritable enjeu, et comme s'il pouvait y avoir une bonne procédure pour lapider quelqu'un. Ça m'étonne. Aujourd'hui, ce n'est pas de l'exégèse scientifique, mais c'est une prédication. Alors, prédicateur, toi, potentiel, amateur de l'Évangile, toi qui veux proclamer, prédicateur, toi aussi, tu dois transformer des fonctions narratives en personnes vivantes. Sinon, tu restes dans la procédure et dans la meute de tes confrères et consœurs qui interprètent des mots plutôt que la vie. Il n'y a plus ni homme ni femme, disait Paul, ou dit Paul. Mais ici, il y a une femme et il y a des hommes qui jouent ces hommes au moyen d'une femme. Ils jouent leur justification, leur sincérité, c'est du vent, et il y a une femme, une personne. Et il y a moi qui faillis entrer dans le jeu avec des formules lapidaires toutes prêtes. C'est pas la bonne procédure. En oubliant combien cette femme-là me fait penser, évidemment, à ces innombrables femmes meurtries par des lois obscènes et leurs applications prétextuelles, des personnes qui sont des femmes et pas des femmes de papier de reportage, qui sont des personnes. Avant d'être des photos de femmes enceintes au milieu de décombres, pas des femmes en gros, pas des femmes symboles, pas des femmes prétextes à mon émotion, pas des femmes pour établir un raisonnement. Des vraies femmes qui souffrent et tombent avec leurs enfants dans les bras, qui tombent sous les coups avec ou sans ma pensée, avec ou sans ma bonne morale, avec ou sans ma subtilité, avec ou sans mon émotion, mon empathie. Et puis maintenant que je me suis ébroué de tous ces commentaires formels, qui étaient les miens évidemment, qui font de cette femme une sorte de vide fonctionnel, maintenant que j'ai tenté de la voir, elle, comme si elle était vraie, je dois faire un effort supplémentaire pour aller voir maintenant ces hommes et aller voir leur vérité. Ils ne sont pas que des plaideurs, des procureurs, des débatteurs. Ils ne sont pas qu'une fonction narrative pour argumenter. Ils sont ceux qui sont poussés par la force de leur justification à traîner ainsi cette femme. Ils sont justifiés. Ils n'ont ainsi plus de honte, plus de barrières, plus de surmoi, plus de peur. Ces hommes me font penser à tous ces hommes, ces innombrables hommes-là qui peuplent notre actualité, qui ont toutes leurs justifications pour condamner, lapider, massacrer et violer. Eux, en revanche, j'ai du mal à les distinguer. Si cette femme est unique, eux, ils sont meutes. J'ai donc besoin de ce récit pour apprendre à voir. Voir le réel, voir le jeu de dupe. Car au-delà du débat pour savoir si Jésus est, oui ou non, respectueux de la loi du Lévitique ou du Deutéronome qu'il dit qu'il faut lapider celles qui sont comme ça, littéralement, hein, qu'il faut lapider celles qui sont comme ça, au-delà de ce problème de théologien et de légiste, il y a la faiblesse numérique, hein, d'une femme face à plusieurs hommes. Il y a le plaisir de la force. Il y a le goût du sang, il y a la justification du meurtre, il y a la peur de la sexualité, et bien sûr, il y a ce goût immonde de la pureté. Et puis, il y a le jeu. Finalement, rien de tout ça n'a à voir en profondeur avec des problèmes de droit. Cette fameuse question des commentaires, peut-on lapider quelqu'un ? Ce droit qui n'est qu'un prétexte pour ne pas voir ce qui se passe en réalité, qui n'est qu'un prétexte nécessaire ici à la pulsion de meurtre et au-delà même de cette pulsion prétexte à se livrer à l'addiction du pouvoir. Il y a quelqu'un, une femme en l'occurrence, et il y a des hommes qui peuvent la mettre à mort, prétexte auquel il y croit peut-être, même s'ils ne savoureront jamais rien de ce qui les motive. Le chemin pour sortir de la meute est de ne pas y croire du tout avec eux. La loi ici est obscène. Point. La discussion de savoir s'il faut lapider quelqu'un, prise en flagrant délit d'adultère, n'a même pas à se produire, y compris dans notre raisonnement. D'ailleurs, dans ce récit magnifique, la discussion n'aura pas lieu. Alors attention, en allant interpréter ce texte, à ne pas d'emblée tomber dans le piège d'aller en faire un débat de droit. Pour cela, il fallait laisser vivre les personnages, les sortir de leur gang de papier, comme si c'était nous, d'un côté ou de l'autre. Jésus, qui ne va pas entrer dans le débat obscène, n'a qu'un seul problème ici. Le problème de Jésus, c'est tout simplement d'éviter un meurtre. J'ai déjà dit ici que le procédé qu'il emploie n'est absolument pas une méthode utile, ou du moins utilisable, pour tous ceux qui voudraient tenter de briser l'élan d'une violence qui se draperait dans le droit, mais qui serait en réalité pulsionnelle. Si Jésus ici brise l'élan meurtrier, c'est parce qu'évidemment, son autorité est considérable. Elle est exceptionnelle, elle est miraculeuse. Il n'y a pas ici d'autre raison logique pour que ce qu'il fasse, se taire, se baisser, pour que ce qu'il dise, que celui qui n'a jamais péché lui jette le premier la pierre, pour que tout cela fonctionne. Mais ces paroles qu'il dit, ces gestes qu'il fait à ces gens, et qui les font s'évanouir, se disperser, se dissiper un à un, et à commencer par les plus vieux, ces paroles ne sont pas destinées à eux. Elles surgissent dans notre évangile du jour et elles sont donc destinées à chacun de nous qui lisons, écoutons ces paroles. Et que font ces paroles? Elles nous renvoient à notre réalité. Devant les autres, avec les autres, en meute, nous pouvons mentir. Nous mentir très facilement. Et dans cette foule, dans ce cirque qui est dessiné ici, dans ce récit, dans cette mise en scène presque sacrificielle. Évidemment que quelqu'un d'entre nous aurait lancé le premier la pierre. Et puis peut-être, qui sait, nous aurions tous suivi. Nous l'aurions peut-être fait si on ne s'était pas entraîné au préalable. Et ces textes des évangiles existent non pas pour en tirer un sens, une formule, non pas pour apprendre quelque chose sur Jésus, mais pour nous entraîner. Entraîner les disciples, les militants de l'Évangile, pour leur permettre d'avoir un coup d'avance, pour rester toujours solitaires, même au milieu d'une meute, de bon droit. Il s'agit donc d'entendre directement cette parole, de progressivement l'entendre, en se débarrassant progressivement de la meute et de toutes ces voix qui nous peuplent, de toutes les justifications qui nous protègent. Que celui seul, face à lui-même, qui n'a jamais péché, mette en pratique cette loi. Une loi évidemment considérée comme obscène par Jésus, mais cela ne suffit pas de le savoir. Il faut avoir mentalement fait cette expérience d'être obligé par cette parole de Jésus que celui qui n'a jamais péché de nous retrouver face à nous-mêmes, éventuellement avec une pierre à la main, et de considérer notre propre situation pour voir la réalité obscène de cette mise en scène d'abattoir et pour nous éviter la dérive de finir un jour pour en devenir un des acteurs. Personne ne me regarde, je suis au milieu des gens, personne ne me jugera, sinon moi-même. Lecteur, auditeur de cette histoire, te reste-t-il encore un peu de distance ou resteras-tu enfermé dans ton obscène certitude? Le disciple du Christ, qui est armé mentalement, va acquérir la distance nécessaire. Il n'est pas un disciple d'une loi, d'un roi, d'un empereur, mais il est disciple de l'Esprit. Ainsi se préparer, avec ce genre de récit, les disciples du Christ, pour qu'ils puissent se dire « Je ne suis pas si pur, finalement, et je ne vais pas devenir un militant de la pureté, plutôt que de suivre le texte à la lettre, mais en réalité suivre mes pulsions protégées par la meute, eh bien je vais regarder le visage de cette femme. Comme Jésus à la fin de ce récit, je vais me retrouver seul avec elle. Le lecteur, venu de la meute, est maintenant amené à la place de Jésus et parle à cette personne. Où sont-ils tous ? La meute obscène qui m'aurait permis d'avoir raison, d'avoir le droit, ils sont partis. Je suis face à face, je suis vis-à-vis. Cette femme n'était pas un prétexte, c'était une personne. Et moi aussi finalement. Qui t'a condamné ? Personne. Moi aussi, je ne condamne pas. Moi aussi, je ne me condamne pas. Cette phrase de Jésus, c'est la phrase du disciple qui apprend son travail de militant de l'Évangile en ayant regardé la réalité en face, sa réalité à lui, pauvre pécheur, et le visage de cette femme qui le regarde aussi. Alors on pourrait considérer que c'est du laisser-aller, et c'est le cas, puisque Jésus la laisse aller, il lui dit « va, il ne pêche plus ». Mais se laisser aller, précisément, et dans ce contexte-là, c'est le plus beau cadeau que peut faire un militant de l'Évangile à quelqu'un qui pourrait devenir un simple prétexte à l'application stricte d'un droit de meute. Ce texte, ce récit, nous en avons besoin, car aujourd'hui, les temps peuvent être à la vengeance. Alors, quand nous sommes animés de cet esprit-là, de ce démon-là, rappelons-nous ce face-à-face. Qui suis-je ? Pour la condamner, où sont-ils donc passés ? Amen.